Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 7, les versets qui vont nous intéresser sont les versets 21, 22 et 23, mais nous voulons lire à partir du verset 13. Nous allons lire à partir du verset 13. Écoutez la parole du Seigneur. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Si est la parole de Dieu, nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de ton aide et nous confessons notre insuffisance, notre incapacité devant toi et nous te prions que tu nous éclaires par ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint nous illumine afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi et que par ta grâce, puisse être appliqué dans nos cœurs, à nos vies. Guide-nous, nous te prions. Ton nom est pour ta seule gloire. Amen. Nous sommes à la conclusion, depuis deux ou trois dimanches, je pense, de cette section qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Et Jésus donne ici à la fin quelques avertissements. Il avait commencé par une invitation que nous avons lue au verset 13, où il dit « Entrez », c'est une exhortation forte, où il dit « Entrez par la porte étroite ». Il avait, après, mis en garde les disciples contre les faux prophètes, à partir du verset 15, qui sont reconnaissables aux fruits qu'ils portent. Ils peuvent se déguiser, mettre des habits de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs et il dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc il avertit Faites attention, ne vous fiez pas aux apparences, mais regardez les fruits qui sont portés. Et puis ici, dans les versets 21 jusqu'au verset 23, il va un pas plus loin, et je crois qu'il parle de manière générale à tout le monde, non pas seulement des faux prophètes, cela englobe aussi les faux prophètes, mais tout chrétien, toute personne, tous ceux en tout cas qui professent le connaître, professent connaître Jésus-Christ. Il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et on sait combien il est facile parfois de croire que l'on est ce que l'on n'est pas, ou de ne pas croire ce que l'on est en réalité. Le diable fait tout, bien sûr, pour aveugler. On avait vu ça, je crois que c'est dimanche dernier. Hein. Le Dieu de ce siècle, il aveugle l'intelligence, il détourne la vérité, et il peut, bien sûr, emporter des personnes dans une fausse confiance. Et parfois, nous pouvons nous-mêmes nous emporter dans une fausse sécurité. Et Jésus dit, attention, attention, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Parfois, on pense qu'il suffit d'une certaine formalité, une certaine forme extérieure pour être des chrétiens authentiques. Alors, Jésus dit un certain nombre de choses ici que je vais regrouper en deux ou trois pensées. Premièrement, quoi qu'il dit qu'il est possible, pour l'homme d'exprimer une réelle profession de foi sans une réelle soumission à Dieu. Il est possible d'exercer une certaine profession, même réelle, où on dit des choses qui sont vraies, sans une véritable soumission à Dieu et à sa volonté. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Vous voyez, donc il exprime bien au verset 21 qu'il y a parmi les personnes qui disent Seigneur, Seigneur, il y en a qui sont de ces enfants, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais pas tous, pas tous. Ça veut donc dire qu'il est possible de professer de cette manière le Seigneur sans faire partie de son troupeau, sans être admis dans son royaume. On peut donc avoir ce qu'on appelle une juste orthodoxie, on est droit dans ce que l'on dit. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Le mot ici, c'est le mot qui est curieuse dans le grec, mais qui vient de Yahweh. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui reconnaissent vraiment que Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas, il ne parle pas de personnes qui parlent à la légère ici, qui disent Seigneur comme ça, comme on entend souvent les gens, ils ont un truc, ils disent ah, ils mettent la main sur la tête et puis ils disent ah, Seigneur. Il ne parle pas de ce type de personnes. Il parle de personnes qui savent ce qu'elles disent quand elles utilisent le mot Seigneur ici. Donc ce sont des personnes qui reconnaissent en lui le Seigneur, le Maître. Ce qu'elles disent de lui est juste, ce qu'elles disent de lui est vrai, et ce qu'elles croient même de Jésus aussi est vrai. Et Jésus ne leur reproche pas de l'appeler Seigneur, mais il affirme simplement que ceux qui professent cette vérité, pas tous ceux qui professent cette vérité, n'entreront dans le royaume des cieux. Donc il y a des personnes qui le professent, on le dit, qui entreront, mais d'autres qui le font et qui n'entreront pas. Donc Jésus ne dit pas qu'une telle profession n'est pas bonne. Il ne dit pas qu'il n'est pas bon de l'appeler Seigneur, Seigneur. Il dit que ceux qui ne professent pas Jésus-Christ n'entreront pas, certainement pas, dans le royaume des cieux. Mais pas tous ceux qui le professent non plus entreront dans le royaume des cieux. Le véritable disciple de Christ confesse, bien sûr, avec force que Jésus-Christ est Seigneur. Il le chante, il le croit de tout son cœur. Mais Jésus ouvre ici nos yeux, véritablement, sur cette réalité qui, parfois, nous échappe. Sans doute, eh bien, c'est que ceux qui disent, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront dans le royaume des cieux. Un non-chrétien peut professer une vérité biblique. Un non-chrétien peut croire à une vérité biblique. Il peut professer la seigneurie de Christ. Il peut croire à une foule de vérités concernant Christ et demeurer néanmoins quelqu'un qui n'est pas régénéré. C'est possible, c'est ce que Jésus dit ici. Parfois, on peut penser que parce que quelqu'un a dit quelque chose, a professé quelque chose, a exprimé quelque chose, c'est qu'elle est. Et Jésus dit non, il peut y avoir une différence entre ce qui est dit, ce qui est professé. Même si ce qui est professé est vrai, est juste, est droit, même si ces personnes qui parlent à Jésus, qui lui disent « Seigneur, Seigneur », lui disent de bonnes choses, des choses qui sont justes et droites, il dit que cela peut provenir de personnes qui ne le connaissent pas. Croire des vérités bibliques n'est pas un problème. Les démons croient, la Bible dit. Les démons croient, donc ce n'est pas un problème de croire des vérités bibliques. Dans Jacques 2, verset 19, il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Et durant le ministère de Jésus, on a vu qu'il y avait des démons qui savaient exactement qui il était et qui professaient fortement qui il était. Par exemple, en Marc chapitre 1, verset 24, il y a des démons qui disent à Jésus « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. » Il y en a un qui dit « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » C'est une profession forte, vraie, juste, droite, mais elle est faite par un démon. Elle est faite par un démon. Et donc Jésus dit que, attention, pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ne vous fiez pas simplement dans l'expression droite, dans le fait même que les gens croient les vérités concernant Jésus-Christ. Et ne vous fiez pas non plus vous-même dans le fait que vous croyez des vérités me concernant. Parce que pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront dans le royaume des cieux. Parce qu'on peut professer Christ sans avoir Christ. Et il montre aussi que même il y a des gens qui peuvent le dire avec une grande ferveur. Il dit « Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Et le fait de répéter deux fois le mot dans la langue hébraïque, c'est une manière d'insister, de montrer la ferveur, le zèle, l'émotion même qui est engagée dans ce que l'on dit. Quand Jésus dit, par exemple, en vérité, je vous le dis. Il dit pas, en vérité, je vous le dis. Il pourrait dire, mais le fait de dire deux fois, cela insiste sur la solennité de la chose. Et cela traduit une forte émotion. Je pense à Actes chapitre 9, lorsque Jésus arrête Paul sur le chemin de Damas. Vous vous rappelez quand il s'adresse à lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Saul, Saul », deux fois, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et cela, je pense, cela dénote que Christ considérait vraiment son corps, et il y avait cette profonde émotion, ce sentiment, voilà, que c'est lui-même qui est persécuté lorsque ces hommes persécutent ses enfants et persécutent son Église. Et donc ceux qui disent ici « Seigneur, Seigneur », ils le disent avec une certaine ferveur d'esprit. Et Jésus dit « Même lorsqu'il y a de la ferveur, cela ne veut pas dire que les personnes connaissent véritablement Christ. » Pourquoi ? Parce que croire dans la saine doctrine, professer les choses justes concernant Jésus, prier avec ferveur, chanter avec ferveur, n'implique pas vraiment que le cœur est soumis, n'implique pas que le cœur obéit à la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui sont émotives naturellement, elles ne peuvent pas dire deux mots sans pleurer. Et commence à prier, la voix commence à s'étreindre, on sent que les sanglots sont toujours au bord. Et puis quelqu'un peut dire, oh, ce frère, cette sœur, quel amour pour le Seigneur. Peut-être, mais on peut le faire sans connaître Christ. Des non-convertis peuvent être remplis d'émotions. Et on peut commander même aussi nos émotions. On peut commander les pleurs, commander le rire, commander les larmes. J'ai vu une fois un acteur de cinéma et quelqu'un lui a dit « Est-ce que vous pouvez pleurer là pour nous ?» Il était dans une émission comme ça. « Est-ce que vous pouvez pleurer pour nous ?» Et il est resté là et au bout de 30 secondes, Il y avait des larmes qui coulaient de son visage. Et je me suis dit, mais ils sont quand même forts. Hein. C'est pour ça. Quand les vrais acteurs arrivent à se mettre dans une situation telle que des larmes coulent de leur visage. Et donc, on peut avoir de profondes émotions sans, quand on chante, quand on prie, quand on prêche, sans connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, attention, faites attention, ouvrez vos yeux. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, même s'ils disent des vérités, même s'ils le disent avec ferveur. Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. La question, nous dit Jésus, n'est pas simplement ce que je professe, ce que je crois, ni avec quelle exactitude je le professe, ni avec quelle ferveur je le chante ou je le prie, mais quel effet ces choses ont dans ma vie. Quel effet ces choses ont dans ma vie. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus disait dans le passage parallèle, hein, Luc chapitre 6, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Hein? Il dit, il y a possibilité de l'appeler comme ça, avec cette ferveur, et pour, en même temps, de ne pas faire ce qu'il dit. Il est donc possible d'exercer avec... tout petit peu, je crois que j'ai mélangé... Juste une page, pardonnez-moi. Voilà, donc c'est possible, hein, n'est-ce pas, de professer ce que Jésus dit. Il est possible pour un homme de professer la vérité, de le professer avec ferveur, sans pour autant être soumis à Dieu. Ça, c'était le premier point que je voulais développer. Le second et le suivant, c'est que Jésus montre aussi, il souligne une seconde réalité, c'est qu'il y ait possible pour un homme d'exercer des dons spirituels de premier rang et ne jamais avoir eu de relation avec Jésus-Christ. Il est possible pour un homme d'exercer des dons spirituels de premier rang et de n'avoir jamais eu de relation avec Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit au verset 22. Il dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Notons, chers frères et sœurs, encore une fois, que Jésus ne réfute pas les affirmations de ces personnes. Il ne dit pas « vous dites faux, vous n'avez jamais fait cela. » Ou si vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait par mon nom. Parce que trois fois, ils disent « n'avons-nous pas fait par ton nom, par ton nom, par ton nom. » Vous avez remarqué, hein, si ? Il ne réfute absolument rien de tout cela. Cela veut dire que ces personnes ont réellement, c'est comme ça que nous pouvons le comprendre, accompli ces œuvres et l'ont fait. En tout cas, on croit le faire par le nom de Jésus. Notez l'excellence de ces dons, chers frères et sœurs. La prophétie, l'exorcisme, les miracles, ce sont des dons spirituels de premier rang. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui parlait de la prophétie, qui avait dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, que nous avons étudié il y a quelque temps déjà, que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Et puis un peu plus loin, il avait dit, aspirez au don de prophétie. Mais ce que souligne ici le Seigneur, c'est l'absence vraiment de connaissance. Ces personnes ne sont pas, dit-il, connues de lui. Je ne vous ai jamais connu. Et le sens de connaître ici est celui que l'on emploie dans une relation intime entre un mari et sa femme. Par exemple, c'est le mot qui est utilisé dans Matthieu chapitre 1, 25, quand il est question de Joseph, lors de la naissance de Jésus. Il dit, mais il, en parlant de Marie, ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Et donc c'est une, quand Jésus dit, je ne vous connais point, il n'y a jamais eu de relation spirituelle entre vous et moi. Malgré tout ce que vous avez pu faire, malgré l'excellence des dons que vous avez exercés. Notons le succès du ministère de ces personnes. Elles ne disent pas, n'avons-nous pas essayé de prophétiser en ton nom? Elles ne disent pas, n'avons-nous pas essayé de chasser les démons? Ou n'avons-nous pas essayé de faire des miracles? Elles affirment qu'elles l'ont fait. N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Elles pourraient presque convoquer les gens qui ont assisté à tout cela et puis les présenter comme preuve au Seigneur. Ils ont fait beaucoup de miracles. Et puis, ces personnes ne mentiraient pas devant le Seigneur Jésus-Christ. Il serait bien que s'ils n'avaient pas fait, ce serait un mensonge ici. Donc ce qu'elles disent, je crois, est profondément vrai. Elles ont fait ces choses. Elles ont accompli ces choses. Et il y a eu beaucoup de miracles. Il y a eu de la prophétie. Il y a eu toutes ces choses. Elles l'ont fait avec succès. La parole a été prêchée. Les âmes se sont converties. Elles ont été baptisées. Des personnes ont été délivrées des démons. Et des manifestations merveilleuses ont eu lieu. Le ministère a eu du succès. On pourrait presque dire que le ministère était christocentrique, puisque c'était par son nom qu'ils l'ont fait. Ils le faisaient en nommant Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit une fois, mais ces personnes, en parlant de quelqu'un, d'un pasteur ailleurs, me disaient, ces personnes font les délivrances et utilisent uniquement le nom de Jésus. C'est vrai. Jésus dit que ces personnes ont fait pareil. Mais il est néanmoins possible d'exercer des dons exceptionnels, des dons spirituels exceptionnels, d'avoir du succès dans un ministère, de prêcher avec succès, d'écrire des livres, d'être éloquent, d'avoir une renommée, de faire des miracles et de ne jamais avoir connu Christ, plutôt de n'avoir jamais été connu par Christ. C'est ce que Jésus dit ici. Il dit que c'est une possibilité. Et il dit, vous devez ouvrir vos yeux sur cela. Attention, attention. Ici. Il est donc possible, n'est-ce pas, d'exercer avec succès tous ces ministères sans avoir jamais entretenu de relation avec Christ. Et l'exemple de Judas, par exemple, est là pour nous le rappeler. Lorsque Jésus choisit ses disciples, la Bible dit qu'il en choisit 12 et puis qu'il les envoie avec le pouvoir de chasser les démons et de faire des guérisons. Et Matthieu chapitre 10 nomme tous les disciples que Jésus a convoqués et termine par Judas, celui qui devait le livrer. Et certainement, Judas a exercé ce don spirituel. Certainement, il a guéri, certainement, il a chassé des démons. Parce que s'il ne l'avait pas fait, je crois que ça aurait mis un doute dans l'esprit des disciples. Lorsque Jésus, vous vous rappelez de la chambre haute, a dit, l'un de vous me livrera. Je veux dire, mais il y en a un là parmi nous, il n'a pas fait grand-chose. Hein. D'accord? Et il serait peut-être mis la puce à l'oreille. Il ne savait pas qui c'était. Et certainement, son ministère a été comme celui des autres. Son ministère a été comme celui des autres. L'apôtre Paul, rappelez-vous, disait aux Corinthiens qu'il est possible d'exercer des dons extraordinaires sans avoir de l'amour. Et que s'il n'y a pas d'amour, on n'est rien. On n'est rien. Il est possible de faire de grands sacrifices, et je voudrais vous lire cela pour ceux qui ne connaîtraient pas ce passage. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc il est possible d'avoir, il dit même on peut aller très 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 loin dans l'expression de quelque chose, même dans des expressions spirituelles, même dans l'exercice de dons spirituels, sans véritablement connaître Jésus-Christ. Et puis, troisièmement, Jésus dit ici, je crois que la vie présente doit être vécue dans la perspective du jour à venir. La vie présente doit être vécue dans la perspective du jour à venir. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là. Et il montre qu'il y a quelque chose qui va se passer en ce jour-là. Et on doit maintenir présent dans notre esprit ce jour-là et vivre ces jours-ci dans la perspective de ces jours-là. Parce que ces jours-là, ce jour de jugement, c'est le jour qui révélera véritablement toute chose. Il y a un jour particulier qui vient et le Seigneur l'appelle ce jour-là. C'est le jour où tout sera mis en lumière, où la réalité sera ouvertement exposée. C'est le jour du jugement. Nos professions de foi, nos œuvres seront pesées dans la juste balance divine. Nos motivations secrètes seront placées sous le regard de flamme du Seigneur Jésus. Et la perspective de ce jour doit impacter notre quotidien. C'est ce que Pierre dit, par exemple, quand il dit dans la seconde épître, qu'il dit « Puisque toutes ces choses sont en voie de disparition, doivent se dissoudre », il parle des cieux et de la terre qui doivent disparaître avec fracas, il dit « Puisque ces choses doivent arriver, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite ou de votre piété ?» Et nous pouvons noter ici, quand nous lisons ce passage, que ces personnes étaient surprises quand elles sont arrivées ce jour-là. Franchement, elles ne s'attendaient pas à ça. La plaidoirie qu'elles mènent face à Jésus-Christ montre qu'elles ne s'attendaient pas à ne pas être reçues. C'était une surprise. Elles déploient tout ce qu'elles ont pu faire sur cette terre. La puissance de leur ministère, le succès de leur ministère, l'excellence de leur ministère. Et c'est comme s'il disait à Jésus-Christ, mais ça ne peut pas avoir été quelque chose de faux quand même. Tu ne peux pas refuser ces choses. D'autant plus que nous les avons faites par ton nom. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il dit pas, je ne vous connais plus. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que lorsqu'il connaît, il connaît pour toujours. Lorsqu'il sauve, il sauve pour toujours, je le dis en passant. Il ne dit pas, je vous ai connu, mais maintenant vous êtes détourné, je ne vous connais plus. Il dit, il n'y a jamais eu, dans l'espace et dans le temps, de moment où nous avons eu une relation. Il n'y en a jamais eu. Et vous pouvez présenter tout ce que vous voulez comme œuvre spirituelle, comme profession, comme ferveur, comme émotion. Il dit, s'il n'y a pas eu de connaissance profonde de Jésus-Christ, il dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il n'y a rien qui puisse tenir ce jour-là, autre que être connu de Jésus-Christ. C'est tout. Celui qui est connu de lui pratique des œuvres. Mais pas tous ceux qui pratiquent des œuvres le connaissent. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le Seigneur ouvre nos yeux de manière forte à la fin de ce sermon. Jésus parle du jugement de ce jour-là pour nous amener à réformer nos jugements durant ces jours-ci pendant lesquels nous vivons. Il avertit dans cette conclusion qu'il n'y a que deux voies. Et il nous engage, il dit, entrez par la porte étroite. Il nous dit que, attention, il y a des gens qui vont vous dire toutes sortes de choses, qui vont s'habiller avec une apparence chrétienne, mais faites attention, ils vont vous prêcher des choses qui semblent être la vérité. Faites attention, ce ne sont que des habits, au-dedans, ils sont faux. Regardez leurs fruits. Il dit, et vous-même, faites attention dans vos jugements. La manière avec laquelle vous jugez les autres. ne jugez pas à partir de l'apparence, parce qu'il y a des gens qui vont dire des choses qui vous paraissent droites, justes, orthodoxes, mais qui ne seront pas dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui vont faire des choses grandes, extraordinaires, belles, louables, et qui ne seront néanmoins pas dans le royaume des cieux. C'est un avertissement pour nous dans le jugement que nous portons sur les évidences du salut, mais c'est un avertissement pour nous-mêmes, à veiller sur nous-mêmes. Comment est-ce que nous estimons les choses pour nous-mêmes? L'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, par exemple, il dit « Veille sur toi et sur ton enseignement. » Mais il dit « Veille sur toi aussi. » Il faut veiller à l'enseignement que l'on donne, mais il faut veiller aussi à soi-même. Être certain de cette relation que l'on entretient avec Jésus-Christ. Ce que le Seigneur dira en ce jour-là, chers frères et sœurs, doit être notre préoccupation, plus que tout ce que les hommes peuvent nous dire en ces jours-ci. Et ça, c'est important. Jésus dit, je leur dirai ouvertement. Il y a des choses que Jésus dira. Il dit, je leur professerai. Ils ont professé mon nom, mais maintenant c'est moi qui professe. Et ça, c'est la vérité. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Peut-être que sur la terre, on leur avait fait des éloges à ces personnes. On leur avait dit, oh, quelle grâce de vous avoir. Quelle grâce que le Seigneur vous ait envoyé parmi nous. Vous êtes si compétent, si ceci, si cela. Je sais pas, comment on peut des fois faire l'éloge des personnes. Parfois, pour certains, c'était vrai, puis ils sont avec le Seigneur. Mais pas pour tous, dit Jésus. Et ce qui est important, c'est pas ce que les gens nous disent. Faut pas trouver de la confiance dans ce que les gens nous disent de nous-mêmes, étant sur cette terre. Mais il faut penser à ce jour-là, ce que Jésus dira. Et ce qu'il dira en ce jour-là. Il nous dit ce qu'il dira. Il nous dit sur quoi son jugement sera basé. Et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer ces jours-ci. La relation intime, connaissance, une soumission à la parole de Dieu. Un cœur repentant. Qui vit, qui recherche la sainteté. C'est ça qu'il dit ici. Donc le Seigneur dira, ce qu'il dira doit être notre préoccupation pendant ces jours-ci. Et donc ne nous laissons pas, chers frères et sœurs, abuser par les éloges humaines et ne les cherchons pas non plus. Ils ne sauraient nous assurer le ciel. Ce que le Seigneur dira ce jour-là sera définitif, irrévocable et indépendant de tout ce que l'on aura pu entendre comme promesse, comme éloge de nous-mêmes sur cette terre. L'apôtre Paul disait, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Il dit, je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, dit-il, c'est le Seigneur. Et ce que Jésus dit ici, c'est attention, c'est moi qui jugera au dernier jour. Et voilà comment je jugerai au dernier jour. Non pas sur les professions verbales seulement, non pas sur les actions puissantes, non pas sur l'exercice de dons spirituels seulement. Mais sur le cœur qui me connaît et qui a une véritable relation avec moi, qui est soumis et qui obéit à la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ce que le Seigneur recherchera donc en ce jour-là doit faire vraiment l'objet de nos recherches aussi, être connu par lui, sinon, dit-il, je dirais, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces hommes ont porté beaucoup d'efforts sur l'accomplissement d'œuvres, beaucoup d'efforts sur des professions, beaucoup d'efforts peut-être sur des études, sur beaucoup de choses. Et ils ont négligé une chose, c'est de s'éloigner de l'iniquité. Et Jésus dit, par la voix de l'apôtre Paul dans 2 Timothée, il dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Je trouve que ce verset résume bien ce passage de Matthieu. Et il ajoute, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc on a là des personnes qui ont prononcé le nom du Seigneur, mais qui ne se sont jamais éloignées de l'iniquité. C'est-à-dire, ils ont vécu dans l'extérieur extraordinaire et ils ont négligé l'ordinaire de tous les jours dans lequel il faut marcher dans la communion avec Christ en s'éloignant jour après jour du mal. Ça qui Paul dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, ça ne suffit pas de le prononcer. Il faut que ce soit avec l'éloignement de l'iniquité. Et cela est possible pour ceux qui sont connus de Jésus-Christ, pour ceux qui le connaissent, ceux qui se sont repentis, qui ont placé en lui véritablement leur confiance. Le Seigneur ne sera pas aveuglé ni attendri par les œuvres spirituelles, fussent-elles, chers frères et sœurs, accomplies en son nom, si ces œuvres ne proviennent pas d'un cœur soumis à sa volonté, à la volonté de son Père, et qui recherche la sainteté dans la vie de tous les jours. Cette soumission et cette vie sainte sont vraiment la preuve que l'on est connu de lui. Je voudrais ajouter ceci en guise d'application, que Jésus montre par cet avertissement, je crois, la facilité pour nous les hommes de nous tromper sur les évidences du salut. La facilité que nous avons de nous tromper sur les évidences du salut. L'homme se trompe facilement à cause de sa méconnaissance de la souveraineté de Dieu. L'homme se trompe facilement à cause de sa méconnaissance de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain sur toutes choses, dit la Bible. Il y a un verset qui dit, je crois dans la version d'Arabie, « Toutes choses le servent. Tout lui appartient. » Et il se sert d'un âne, d'une ânesse, pour parler à Balaam. Et donc il se sert aussi des inconvertis pour leur faire servir à sa gloire. Et parfois nous pensons peut-être que Dieu n'utilise que les croyants dans son plan. Donc si quelqu'un professe des choses, ça ne peut être qu'un croyant. Parce que Dieu n'utilise pas n'importe qui pour parler de lui. Mais on a des exemples dans la Bible. Par exemple, nous avons l'exemple de Balaam dans l'Ancien Testament qui prononce les oracles de Dieu. Il dit, Dieu met, nombre 23:5 dit, Dieu met des paroles dans la bouche de Balaam. Et puis plus loin, il dit, Balaam prononce son oracle et il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. C'est comme ça qu'il parle quand Dieu lui révèle des choses. Mais l'apôtre Pierre nous dit que Balaam aimait le salaire de l'iniquité. Et puis dans l'Apocalypse, il n'est pas décrit dans des bons termes non plus, Balaam. Dieu peut se servir de tout ce dont il veut pour faire son œuvre. On a déjà parlé de Judas. Donc attention, chers frères, ne pensons pas que parce que quelqu'un dit de bonnes choses ou fait des choses extraordinaires, c'est une preuve irréfutable qu'elle connaît Christ. Ni parce que nous faisons des choses extraordinaires, nous prêchons, nous chantons, nous prions, que ce sont seulement cela qui constitue des preuves. Bon, ce sont des preuves s'il y a une réalité, mais elles peuvent exister sans une véritable réalité. L'homme se trompe facilement aussi à cause de la confusion qu'il fait entre le ministère et le ministre. Parfois, on mélange les deux. L'homme qui prêche et la prédication, on a tendance à mélanger un peu les deux choses. S'il y a du succès dans un ministère, c'est forcément que Dieu approuve le prédicateur. Pensons-nous. Mais est-ce juste? Non. L'Écriture nous enseigne que non, parce que je crois que Dieu honore en premier sa parole. Dieu honore en premier sa parole. Il a dit, mes paroles ne reviendront pas à moi, ma parole ne reviendra pas à moi sans porter du fruit. Il n'a jamais dit, le prédicateur ne reviendra pas à moi sans porter du fruit. La parole, le message de sa parole. Et je dirais que la vérité prêchée par des inconvertis demeure la vérité. Et demeure capable d'engendrer la vie. La vérité prêchée avec de mauvaises motivations demeure la vérité. Si elle est prêchée dans les termes, comme elle est dans la parole, et est capable de procurer aussi la vie. L'apôtre Paul nous donne un exemple de cela que je voudrais lire en Philippiens. Il dit ceci, il dit, vous connaissez bien ce passage, Philippiens chapitre 1, et l'apôtre Paul dit, à partir du verset 15, il dit, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec de dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi dans la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures avec des pensées de me susciter quelque affliction dans mes liens. » Puis il ajoute, « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » C'est-à-dire, il dit, le message est prêché, la vérité, c'est la vérité de Dieu. Il dit, l'homme, il a fait de la mauvaise disposition, mais le message est prêché. C'est comme quelqu'un qui vous donne un billet de 100 euros. S'il vous donne 100 euros avec une bonne attitude, ou s'il vous donne avec une mauvaise attitude, c'est toujours 100 euros qu'il vous a donné. Et vous pourrez acheter la même chose avec, ça aura le même pouvoir d'achat. Ça ne changera rien. Et donc, il ne faut pas croire que parce qu'il y a du succès quelque part, cela veut dire que le prédicateur est vraiment un enfant de Dieu. Bon, j'espère pour nous ici. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas interpréter les choses de cette manière-là. Et ça, c'est une confusion que nous faisons qui fait que, parfois, quand nous voyons des hommes ou des personnes faire des choses extraordinaires ou dire des choses, et puis voir une foule qui suit, on dit, ah, mais ça n'a peut venir que de Dieu. C'est parce que Dieu a béni ce ministère. Même quand les enfants de Dieu désobéissent, Dieu peut utiliser, faire quand même de la bénédiction à travers ce qu'ils font. Mais ils ont quand même désobéi. C'était le cas de Moïse. Lorsque Dieu demande à Moïse de parler au rocher, il frappe le rocher et Dieu lui dit plus tard, tu ne m'as pas sanctifié à cause du peuple, devant les yeux du peuple. Tu n'entreras pas dans le pays de Canaan. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? L'eau est quand même sortie du rocher. L'eau est sortie du rocher alors que Moïse n'a pas fait comme Dieu lui avait demandé. Dieu lui reproche plus tard ce péché. Mais il a quand même béni. Donc nous ne devons pas confondre le succès d'un ministère avec l'approbation du ministre. Ça, c'est une confusion à laquelle nous devons nous garder. Et puis l'homme se trompe aussi facilement en confondant le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Ces hommes présentent pas des fruits, mais des dons. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Ce sont des dons spirituels. Mais remarquez, quand Jésus parle des faux prophètes dans quelques versets plus haut, qu'est-ce qu'il dit? Vous les reconnaîtrez à leurs dons? Non. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, ça n'est pas le don. Et celui qui a Christ en lui, il porte le fruit de l'esprit. Et vous avez vu le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, ça n'est pas la prophétie. Ça n'est pas chasser les démons et ça n'est pas faire des miracles. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la foi, la patience. Vous voyez, c'est ça le fruit de l'esprit. Il dit, c'est ça qu'il faut chercher. Est-ce que ces personnes, elles aiment? Est-ce qu'elles aiment les autres? Est-ce que nous aimons les autres? Jésus dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie lorsque nous aimons les frères. Est-ce que nous aimons la compagnie des frères? Ah, nous peut-être nous aimons être au pupitre, mais est-ce que nous aimons la compagnie des frères? Est-ce que nous les aimons? Est-ce que nous prions pour eux? Est-ce que nous les présentons devant le Seigneur? Il dit, c'est là qu'il faut chercher le fruit. C'est pas dans les dons. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et puis, Je dirais que Jésus montre ici vraiment que le salut, chers frères et sœurs, ne consiste pas simplement dans la croyance de vérité biblique, ni dans une profession verbale, même fervente. Mais vraiment, il faut de la soumission à l'obéissance, dans l'obéissance à Dieu. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. L'apôtre Paul donne le but de son ministère aux chrétiens de Rome. Dans l'Épître aux Romains, il dit « Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Le but, c'est d'amener à l'obéissance de la foi. C'est cela. On peut vouloir beaucoup de choses concernant Dieu sans vouloir Dieu lui-même. On peut vouloir servir Dieu. On peut vouloir être diacre, être ancien, être prédicateur, être tout ce que vous voulez. Être un grand écrivain, écrire des bouquins de théologie. Mais ne pas vouloir Dieu. C'est ce que le Seigneur nous montre ici. Ça me fait penser à Simon le magicien, vous vous rappelez, qui voulait le pouvoir que donne l'esprit de pouvoir chasser les démons. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je pourrais délivrer les gens des démons. Mais il ne voulait pas connaître Dieu, il ne s'est pas soumis à Dieu. C'est pour ça que lorsque Pierre vient et lui dit que ton argent périsse avec toi parce que je vois que tu es dans un fiel amer, amer. Il désirait des choses de Dieu sans désirer Dieu lui-même, dans une connaissance intime. Le salut ne consiste pas simplement dans le service, mais dans une véritable relation avec Christ, loin de l'iniquité. Quel étonnement, chers frères et sœurs, pour ces personnes qui ont toujours cru œuvrer pour Christ, de découvrir avec horreur que Christ ne les a jamais connus. Notons que Christ ne dit pas « Vous ne m'avez jamais connu », mais il dit « Je ne vous ai jamais connu. » Connaître Christ consiste d'abord à être connu par lui. L'apôtre Paul dit la même chose aux Galates et il commence dans un sens et puis il s'empresse de corriger. Il dit « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, il ajoute, ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu. Parce que ce qu'il a connu d'avance, les a aussi, et on a toute la chaîne de Romains chapitre 8, verset 29. « Je suis le bon berger, dit Jésus, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Notre connaissance de Dieu est subordonnée à la connaissance qu'il a de nous, le fait qu'il nous rachète. Nous pouvons le connaître parce qu'il nous rachète. Donc ce passage, et je termine avec cela, est un appel à considérer attentivement nos voies, à rejeter nos manières humaines d'estimer les évidences de la foi et du salut. Si Jésus dit cela, ce n'est pas uniquement pour nous faire peur. S'il le dit, c'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés en ce jour-là. Nous sommes pour l'instant en ces jours-ci. Et dans ces jours-ci, nous pouvons considérer les choses à la lumière de des vérités, des réalités, des critères qui seront utilisés en ces jours-là. Et Jésus dit que l'essentiel ici est de le connaître. C'est pour cela qu'il dit « entrez par la porte étroite ». Il invite à venir à lui, à se repentir véritablement, à ne pas se contenter d'écouter et d'écouter et d'écouter. Vous pouvez lui dire, j'ai écouté, j'étais tous les dimanches à l'église de Saint-Denis, j'ai écouté les messages. Je ne vous ai jamais connu, parce que vous n'êtes jamais venu à moi, vous n'êtes jamais placé à mes pieds, vous n'êtes jamais demandé pardon, vous n'êtes jamais repenti de vos péchés, malgré tout ce que vous avez entendu. Et donc c'est un appel à la repentance que Jésus lance ici. Ne restez pas, chers amis, si vous ne le connaissez pas, avec le cœur endurci. Priez, dites-lui connais-moi, Jésus-Christ, connais-moi. Parce qu'il dit, je ne vous ai jamais connu. Demandez-lui de vous connaître. Demandons-lui de nous connaître, de nous sauver. Tournons-nous vers lui dans une véritable relation. Et il nous permettra de connaître cette relation avec lui. Ne nous laissons pas berner par ce que nous faisons. Ne croyons pas que parce que ça fait 20 ans que nous servons à l'Église, c'est bon. Non, non, non. Ce que Jésus regardera, c'est la réalité de la relation avec lui, dans l'intimité. Et le cœur qui s'éloigne du mal parce qu'il sera habité par Christ et par l'Esprit de Christ. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, la Bible parle en termes d'aujourd'hui. Ce jour-ci, c'est le jour du salut. Venez à lui si vous ne le connaissez pas. Et n'ayons pas peur si ça fait des années que nous estimons le connaître. Si nous voyons dans notre cœur que ça n'est pas droit, venons à lui aussi. Et puis demandons-lui pardon, repentons-nous. Et demandons-lui la grâce de le connaître dans une véritable relation. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit Jésus. Quiconque invoque le nom du Seigneur, il ne le rejette pas. Mais il dit qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et pour le faire, il faut être connu de lui. Que le Seigneur nous aide dans sa parole et que son esprit applique ces choses à nos cœurs. Prions.